Esther, on va peut-être, Dieu voulant, terminer ce livre aujourd'hui. Je vous invite à vous y tourner. On voit encore une fois la main de Dieu dans l'histoire, la main de Dieu dans les circonstances d'une personne particulière. Et cela nous enseigne encore une fois que Dieu, même si on n'en a pas vraiment conscience ou si c'est pas visible, Dieu n'a pas déserté le trône, il règne. Et à la fin de l'histoire, si vous avez lu la Bible, c'est lui qui gagne. Et souvent, les circonstances sont telles que devant la souffrance, devant la persécution, pour dans certains cas, devant ce qui nous semble être le silence de Dieu, Dieu est à l'œuvre et Dieu nous aime. Et il accomplit ses desseins. Et là, on voit comment dans cet épisode, il a préservé son peuple. On va voir la victoire de son peuple et l'institution de la fête de Pourim à la fin de ce récit. Dieu tient ses promesses. C'est bon de le savoir pour nous qui sommes ici en 2014 à Nice. Et nous pouvons lui faire confiance. Dieu a promis qu'il bénirait son peuple lorsqu'il en a parlé à Abraham. On a vu ça dans la Genèse 12 notamment. Et il est à l'œuvre. Et celui qui bénit son peuple est béni, celui qui maudit son peuple est maudit. Et c'est intéressant parce que chaque fois qu'on voit dans l'histoire, l'histoire biblique, l'histoire extra-biblique, non, autrement que par la Bible, les historiens, les chroniqueurs, les journalistes, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, chaque fois que on s'attaque à son peuple, il y a une attaque et ça se termine par la fête pour le peuple. Le pharaon a essayé de détruire le peuple juif et le résultat, c'est la Pâque. Ici, avec Esther, on va voir qu'il y a une nouvelle fête qui va être créée, qui va résulter de cette attaque contre le peuple de Dieu, le peuple juif, la fête de Pourim, qui est encore fêtée aujourd'hui par les juifs religieux. Et puis, c'est même devenu une fête, on pourrait dire que c'est une fête nationale, ou du moins une fête célébrée par toute la population du pays d'Israël en ce moment. Plus tard, il y a eu Antioche Épiphane qui a essayé de détruire le peuple. C'est terminé par la fête des Lumières, la fête de Hanouka. Parce qu'il y a eu un miracle, il y avait peu d'huile, mais ça a servi à faire briller le chandelier des Juifs, du Temple. Il y a peu de temps, Hitler a essayé de détruire le peuple juif. L'antisémitisme est toujours présent, parce qu'on l'a vu, je ne vais pas y revenir, il est d'inspiration démoniaque. Si le Messie doit arriver une première fois et doit revenir après que le peuple juif ait fait certaines choses, Satan se dit, si je les détruis, je bloque les plans de Dieu. Mais on a vu encore une fois que c'est pas le cas. Hitler n'a pas pu détruire le peuple juif. Et en fait, l'Holocauste, la Shoah, a quelque part, certains s'accordent à penser que c'est ça qui a permis le fait que l'État d'Israël reprenne jour, que les prophéties de la Bible s'accomplissent. Le monde n'a jamais été très favorable aux Juifs, il y a toujours eu beaucoup d'antisémitisme, mais là, devant l'horreur de l'Holocauste, les nations ont finalement accepté l'idée qu'il y ait un retour dans leur pays historiquement d'origine. Et là, la fête il n'y a pas une fête spéciale, mais dans la fête de Pourim, les Juifs aussi fêtent, célèbrent la préservation du peuple juif par Dieu. L'histoire d'Esther, on a vu aussi qu'il y avait une dimension spirituelle. Il y avait cet homme Aman qui était devenu premier ministre. Il est un type, une représentation, une illustration au moins de notre vieille nature, si ce n'est pas de Satan lui-même, qui veut détruire le peuple juif. Bouffi d'orgueil. On sait que c'était l'orgueil, l'orgueil, encore une fois, c'est le plus grand des péchés. C'est l'auteur chrétien C.S. Lewis qui disait qu'il y a beaucoup de péchés qui sont des péchés à part entière, mais il y a quelque part un côté qui peut les rendre acceptables, ou il y a un côté un peu positif. Alors, toute proportion gardée, mais il disait par exemple des alcooliques, ils vont être bons à rien, mais ils vont être capables d'avoir une amitié, où ils sont ensemble dans l'alcoolisme. Des gens qui vivent dans la débauche, c'est terrible, ça fait du mal à eux-mêmes, à leur entourage et à la société. Mais s'ils sont ensemble, ils sont des compagnons de débauche. Il y a cet aspect de camaraderie qui va pas bien loin, mais on peut dire au moins, ça c'est du côté des plus, il y a plein de moins, mais le plus c'est que les gens sont ensemble. Et par contre, l'orgueil, c'est le péché de la solitude absolue. On veut être plus fort que tout le monde, on est le meilleur, il n'y a aucun aspect, et on voit que c'est ce qui a causé la perte de Satan, qui était un ange de lumière, mais qui a voulu se faire aussi grand que Dieu, qui veut l'adoration, comme Aman veut qu'on se prosterne devant lui. Le rêve de Satan, c'est d'être admiré, d'être vénéré, d'être adoré comme Dieu. Et cet orgueil, nous sommes tous affectés. Si vous dites, non, moi je ne suis pas du tout orgueilleux, c'est que vous l'êtes déjà. L'humilité, c'est la qualité inverse dont on ne peut malheureusement pas se vanter, parce que dès qu'on se l'attribue, on a commis le péché d'orgueil. Et encore une fois, c'est cet Aman, dans cet orgueil, il veut détruire le peuple juif. On sait que par une série de circonstances que certains voient comme des coïncidences, Dieu fait que l'édit qui est décrété de tuer tous les juifs dans tout l'empire perse, on se rappelle que c'était un empire qui allait de l'Éthiopie jusqu'en Inde, qui avait 127 provinces, qui était le royaume, l'empire suprême du moment. Le roi avait été trompé par Aman, il n'avait pas trop réalisé les conséquences, il avait signé cet édit, et en Perse, les lois signées par l'empereur étaient irrévocables. Et par une série de circonstances, je vous invite à écouter ou à lire déjà le texte, si vous n'étiez pas là, si vous ne le connaissez pas bien. Esther se retrouve reine, et son oncle Mardoché se retrouve être le premier ministre du royaume, lui qui avait prévu de faire pendre, ou de faire empaler plutôt, on a dit que le gibet c'était plutôt un pal, un bâton sur lequel on empalait de façon très très cruelle, inhumaine, les condamnés à mort. Il se retrouve Premier ministre, mais il ne peut pas changer le fait qu'il y a une loi qui a été votée ou signée, et que le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, tous les gens dans le royaume auront le droit de piller les Juifs et de les tuer. Une loi irrévocable. Et pour arriver à contrecarrer, annuler les effets de cette loi, il n'y a qu'une solution, c'est de faire adopter, de signer une autre loi. Une autre loi qui sera elle aussi tout aussi irrévocable et dont on espère qu'elle va contrecarrer les effets de la première. Aujourd'hui, on voit les gouvernements qui se suivent et la première tâche d'un gouvernement, il passe énormément de temps à détricoter les lois qui ont été votées par le précédent gouvernement, ce qui ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Mais dans le cas de la Perse, la loi était irrévocable. Et on a vu qu'en fait, dans le domaine de la physique, c'est tout aussi vrai, la loi de la pesanteur est irrévocable. Vous pouvez dire qu'elle est injuste, qu'elle n'est pas bien faite, qu'elle vous plaît pas, mais si vous marchez sur le toit et que vous continuez au bout du toit, vous allez laisser la loi irrévocable de la pesanteur vous fracasser le corps en vous faisant tomber avec l'accélération terrestre. Et cette loi irrévocable, de la même façon, on évoquait le poids des avions, le poids des valises qu'on amène dans les avions, le poids qu'on pèse, surtout quand on n'a pas fait le régime en hiver depuis un moment, qu'on a pris des kilos. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on arrive à faire décoller un avion? Et on a vu qu'il y avait une autre loi irrévocable, qui était la loi de la portance aérodynamique, qui fait que s'il y a une forme d'aile qui crée une force de soutien qui est liée à l'accélération, ou plutôt à la vitesse de l'aile dans un courant d'air, dans l'air, on arrive au bout d'un moment à décoller, parce que la loi de la portance contrecarre la loi de la gravité. Et on a vu aussi que cette réalité juridique en Perse, qui rejoignait la réalité physique, des lois physiques, on l'a retrouvée aussi au niveau spirituel, et le meilleur verset pour résumer cela, c'est Romains 8, 2, où il est dit par Paul que la loi de l'esprit de vie en vérité m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Notre vieille nature, le fait que nos ancêtres Adam et Ève ont péché, nous avons hérité du péché, de la maladie du péché, et cette maladie du péché, elle est dans nos gènes, on peut pas la changer, il n'y a pas encore de traitement génétique pour enlever le péché de notre vieille nature. Elle nous tire vers le bas, elle nous entraîne à commettre des actes répréhensibles au niveau de la morale, de l'amour, de la non-assistance à personne en danger, etc. Et cette vieille loi, elle nous condamne à mourir. C'est la loi du péché, et le salaire du péché, nous disait Paul aussi dans Romains 3, c'est la mort. Tout ce que nous méritons au naturel, c'est la mort. Mais Dieu, qui n'a pas pu révoquer cette loi, parce que le péché doit être puni, il a trouvé, entre guillemets, nous on n'a pas compris encore. Les efforts de l'homme aujourd'hui, c'est encore d'essayer de contrecarrer cette loi de péché et de mort par l'éducation, par l'économie, par les bonnes mœurs, par la philosophie, par la psychologie. On essaye tous d'essayer de, mais elle est irrévocable. Il faut une loi du même acabit. Et la seule loi du même acabit qui nous donne la victoire, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Si nous venons à Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nos péchés à ce moment-là, nous sommes vainqueurs et nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit, nous avons, notre esprit revient à la vie et nous pouvons être en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit de vie. Si vous voulez vivre, Dieu a mis devant nous le péché, la mort et la vie, choisissez la vie. C'était le thème d'une croisade de Billy Graham en 1986 en France, c'était « Choisissez la vie ». Alors c'est un choix une fois pour toutes, mais c'est aussi un choix au quotidien. Et encore une fois, ce qui est merveilleux, c'est que cette loi, elle est tout aussi irrévocable. Satan ne peut pas venir et nous dire « Non, maintenant, cette loi, si vous mettez votre foi en Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, elle, ça va pas marcher. » C'est des lois irrévocables. Et c'est notre espérance, c'est notre foi, c'est notre assurance de salut. Si nous venons à lui, nous sommes sûrs. C'est quelque chose qui n'est présent dans aucune autre religion dans le monde. Si vous demandez à un musulman s'il pense être sauvé ou s'il pense aller au paradis, il dit « on n'est jamais sûr ». Inch'Allah, ça dépend de Dieu. S'il est de bon poil ce matin-là ou s'il n'est pas de bon poil, j'ai aucune garantie. Nous avons cette garantie. Est-ce que vous réalisez combien c'est précieux, combien c'est riche, combien ça doit nous motiver au quotidien dans tout ce que nous faisons? Pour terminer, on va lire un peu le chapitre 9. Donc Mardoché est maintenant premier ministre. Le verset 9, verset 1 du chapitre 9, pardon, page 507 dans la Bible à la colombe, si on vous a passé une Bible. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, quand l'ordre et l'édit du roi devaient entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. C'est un bon résumé de l'histoire d'Esther. Et un mot qui est clé, c'est le mot « retournement de situation ». Ça, c'est un mot formidable. Quand on est dans une mauvaise situation. Pas quand on est dans une bonne situation. On aimerait que ça continue. Mais Dieu se spécialise dans les retournements de situation. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu des gens qui font du catch, mais surtout des lutteurs. Les bons lutteurs, ils vont se retrouver presque pratiquement les épaules clouées contre le sol ou le tatami en judo. Et au dernier moment, parce qu'ils ont des talents, de la force, de la ruse, de l'intuition, ils vont réussir un retournement inattendu qui va enthousiasmer les spectateurs et qui va donner la victoire. Dès la Genèse, lorsque Joseph parle à ses frères qui avaient voulu le faire mettre à mort en l'envoyant comme esclave, d'abord en essayant de le tuer, puis en se débarrassant de lui en l'envoyant comme esclave, là aussi il se retrouve premier ministre, il sauve le peuple juif, il a ses paroles célèbres lorsque ses frères réalisent que le premier ministre de l'Égypte, un pays dans lequel ils étaient revenus chercher leur frère, ils voient que c'est lui, leur frère, qu'ils ont voulu en essence tuer ou supprimer. Il leur dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Un retournement de situation. Dieu se glorifie dans ces retournements de situation parce que tout semble perdu et au dernier moment, pof, on voit que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui gagne. Ça doit être un encouragement pour chacun de nous. Quand nous traversons des périodes difficiles, des épreuves, des tragédies, Dieu va retourner la situation. Du moment que nous cherchons à faire sa volonté, du moment que nous l'aimons, que nous l'appelons notre maître et qu'il est notre sauveur, nous pouvons faire confiance qu'il va retourner la situation. Et il y a quelque chose qui satisfait l'âme humaine dans ces choses qui font du bien, qui sont inespérées. Et Dieu veut nous encourager que Il s'y connaît dans les retournements de situation. Et donc, dans les villes, verset 2, dans les villes de toutes les provinces du roi Assuérus, les Juifs se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires royaux soutinrent les Juifs, ils les soutenaient, car la terreur de Mardochée les avait saisis. En effet, Mardochée était devenu un grand du palais, sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardochée grandissait. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, ils les tuèrent, ils les firent périr et ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Rien qu'à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et par Chandata et Dalphon et Aspata et Porata et Adala et Aridata, et par Mashta, et Arizaï, et Aridaï, et Vaïezata, il faut les apprendre par cœur pour la semaine prochaine, les 10 fils de Haman, fils de Hammedata, adversaires des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Le jour même, le nombre des tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Le roi dit à la reine Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes et les 10 fils de Haman. » Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces royales? Mais quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est encore ta requête? Elle sera exaucée. Esther répondit, s'il plaît au roi qu'il soit permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui et que l'on pende les 10 fils d'Aman à la potence. Ils étaient déjà morts, mais elle voulait qu'on les expose au public. Le roi dit de faire ainsi. On en publia l'édit à Suse. Et les 10 fils de Haman furent pendus, ou plus probablement empalés. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes sans se livrer au pillage. Vous vous souvenez que le décret permettait aux Juifs de se défendre contre ceux qui les attaquaient. Et on peut penser que ces morts, ces 500 personnes tuées, c'était des gens qui les avaient attaqués. Et les Juifs se défendent et font périr 500 hommes. Et il y a la liste des noms des fils de Haman. Alors, certains voient dans ces noms des noms qu'on retrouve comme des noms d'idoles, qui montre le caractère démoniaque de Haman qui choisissait pour ses enfants des noms comme Lucifer ou Idole 1 ou Idole 2. Leurs noms aussi font référence lorsqu'on les recherche à l'égoïsme. Il y a l'égoïsme léger, il y a l'égoïsme plein de conséquences. C'est les mots qui se terminent en « ata », c'est en ce sens-là. Les autres, on ne sait pas trop. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que il y a Haman qui a fait beaucoup de mal aux Juifs, mais le problème, c'est qu'il avait 10 enfants, 10 fils, qui avait la même haine, on peut imaginer, du peuple juif. Et si on voit l'image spirituelle, nous aussi, notre vieille nature, elle peut se manifester de façons bien différentes et multiples. On pense avoir régler un problème dans notre vie, et puis on s'aperçoit qu'en fait, il y en a un autre qui surgit. On n'avait pas vu le deuxième parce que le premier nous préoccupait. Et c'est là que Dieu est merveilleux dans sa patience. Il nous révèle peu à peu nos péchés. Il pourrait nous accabler, nous désespérer s'il nous montrait l'étendue, s'il nous faisait prendre conscience de l'étendue réelle de mon cœur, de notre cœur qui est tortueux par-dessus tout, que nul ne peut connaître si ce n'est Dieu. Ces fils, c'était des Agagites. Vous vous souvenez, on a parlé de Agag, des Amalécites. Ça a commencé très tôt, dans l'Exode 17. Exode 17, 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fait cela. Moïse, Aaron et Hur vont au sommet de la montagne. Et vous vous souvenez cet épisode célèbre où lorsque Moïse lève la main, Israël est le plus fort. Et s'il baisse les mains, s'il arrête de prier, Amalek l'emporte. Et ils ont l'idée de soutenir les mains Aaron et Hur pour que la bataille tourne en faveur de Josué. Et l'Éternel, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Plus loin, dans 1 Samuel 15, on voit que lorsque les Juifs prennent possession de la terre promise, les Amalécites ont continué à être une écharde pour Israël. À chaque fois, ils ont essayé d'attaquer, d'affaiblir Israël. Et l'Éternel dit au roi Saül, verset Dieu leur avait rappelé Samuel avait rappelé à Saül d'exterminer les Amalécites. C'est verset 3 du chapitre 15. Va maintenant, frappe Amalek et vous à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Et on pense des fois que c'est très cruel, mais encore une fois, si vous savez que quelque chose ou quelqu'un représente un danger mortel, à moins d'être victime d'une bien-pensance vaine et dangereuse, vous détruisez ce qui va provoquer la mort de ceux que vous aimez. Vous pouvez aimer les animaux, mais si vous voyez un boa qui rentre dans le berceau de votre bébé, je vois deux parents là-bas, je suis sûr qu'ils vont pas dire « Oh, ben c'est un gentil petit animal, on va laisser faire, on est écologiste. » Nous, on va détruire. Et de la même façon, Dieu, lorsqu'il dit qu'il doit détruire un peuple, c'est parce qu'il a une vision, il sait que le peuple ne va pas venir à lui, qu'il va persister dans le péché et être un danger mortel pour son peuple. Et donc, le roi Saül va remporter la victoire, vouée à l'interdit, ça veut dire supprimer, ça veut dire ne prenez pas leur possession. Je vais vous donner la victoire, vous allez les supprimer, mais c'est pas pour prendre la télé, la voiture qui va rester, etc. C'est de m'obéir et de faire ce qui est bon pour vous et pour le plan de Dieu, pour l'humanité. Mais Saül, il fait ce que nous faisons beaucoup, il prie vivant Agag, verset 8, roi d'Amalek, et voit à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Il fait ce que nous faisons souvent, il obéit partiellement. Et l'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. On aime bien dire, oui, ben j'ai fait tout ça, d'accord, j'ai encore des petits problèmes, mais non. L'obéissance à Dieu, ça doit être une obéissance totale. Et il y a cet épisode amusant, où, entre guillemets, mais parce que ça nous représente malheureusement trop bien. Samuel voit Saül et il lui demande... Qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de gros bétail que j'entends ? Verset 14 du chapitre 15 de 1 Samuel. Il prend Saül en flagrant délit de ne pas avoir obéi et d'avoir gardé le bétail qu'il devait mettre à mort et d'avoir gardé vivant aussi le roi Agag, le roi d'Amalek, le descendant d'Amalek, chez les Amalécites. Et bien sûr, Saül a une excuse. En fait, je gardais ce bétail pour l'offrir à Dieu. Mais tout le reste, nous l'avons fait. Je suis parfaitement en ordre. Il y a juste ça, mais c'était pour la bonne cause. Et il se fait reprendre. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, va et voue à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Après, le roi Saül va porter le blâme sur le peuple, c'est verset 21. Et Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu veut nous parler et nous dire que toute notre religiosité, elle ne vaut rien comparée à notre cœur et à notre obéissance à Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui lui obéit. Ça, c'est Jean 14 et 15 et 16, où on voit cela de façon très, très nette, prononcée par Jésus-Christ. Celui qui m'aime, obéit. Et ça va coûter cher à Saül, qui va périr par la main de quelqu'un qui descendait aussi des Agagites. Et on a vu que Aman était lui-même un descendant des Agagites. Il était Agagite. Et une des conditions, c'était qu'il fallait encore une fois tout détruire. Et là, lorsque les enfants de Aman sont mis à mort, c'est quelque part une obéissance qui a été retardée, mais qui arrive enfin de plus laisser de descendants de ce roi Agag, lui-même descendant de Amalek, qui était un adversaire de Dieu. Et nous aussi, encore une fois, lorsqu'il y a des choses qu'on doit mettre en ordre dans notre vie, il faut le faire complètement. Si on se laisse une petite porte de sortie, elle va venir nous tenter. Elle va nous faire retomber dans le péché. Si vous avez des problèmes avec la pornographie, rendez votre abonnement Internet, enlevez votre télé. Il faut être radical contre le péché qui est radical. Sinon, les racines de ce péché, si, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de... tondre une pelouse, d'enlever les dandelions, en français, les, on les mange par la racine, les pissenlits. Les pissenlits ont une racine très vivace. Et lorsqu'on veut s'en débarrasser, il faut aller au plus profond pour bien retirer toute la racine. Si on se contente d'arracher la fleur qui est sortie, 2 semaines plus tard, il n'y a pas une nouvelle fleur, il y en a 3 autres. Parce qu'on aura dispersé les graines qui se trouvent sur la fleur et le problème se multiplie. Vous avez vu que le roi demande encore à la reine Esther ce qu'il veut qu'il fasse pour elle. Et vous vous souvenez encore une fois, il y a les lois irrévocables. Il y avait une loi qui avait été votée ou signée pour la journée. Ils avaient le droit de se défendre une journée, mais elle avait dû recevoir des informations du royaume par des cavaliers qui étaient venus dire ce qui se passait. Et elle savait que le travail n'était pas terminé, qu'il fallait un peu de rab, il fallait du temps encore pour se défaire des ennemis des Juifs. On a vu aussi une chose à souligner, c'est que tout l'État, l'appareil d'État maintenant, s'est retourné et au service des Juifs, parce que Mardochée est devenu premier ministre. C'est lui qui règne en second. Et l'importance de sa personne, nous est-il dit, verset 4, grandissait. Il était quelqu'un qu'on respectait. Mais il n'empêche, il y avait encore des gens qui voulaient prendre s'opposer aux Juifs, les faire périr. Et là, elle demande une journée de plus, et c'est ce qui est accordé. Le 14e jour du mois d'Adar, ils peuvent continuer. Et là aussi, il faut faire publier un édit à Suse. On fait une autre loi. Alors, une autre loi irrévocable pour un jour, mais c'est ainsi. Et on montre aussi les 10 fils de Haman sont exposés. C'est sa demande. Et à plusieurs reprises, il est dit, ils ne se livrèrent pas au pillage. Là encore, ils accomplissent la demande de Dieu, l'Éternel, que l'Éternel avait faite par Samuel à Saül, de vouer à l'interdit, de ne pas profiter de la situation. Ce qui comptait, c'était la situation spirituelle. Ces gens qui s'opposaient au peuple juif devaient être punis. Ça ne devait pas être une occasion de s'enrichir sur leur dos, d'utiliser leur maison, où il fallait ne pas se livrer au pillage. Verset 16, les autres juifs, ceux des provinces royales, s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir contre leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Encore une fois, c'est souligné. Alors là, il faut sans doute voir que c'est sur les 127 provinces. J'ai pas eu un chiffre pour la population, mais ça fait beaucoup d'adversaires qui ont attaqué les juifs, qui se sont défendus. Et il est dit, le 13e jour du mois d'Adar, en repos le 14, ils en firent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, verset 18, du chapitre 9, ils se rassemblèrent le 13 et le 14. En repos le 15, ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs Péraz, ceux qui habitent des villes ouvertes, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardochée écrivit ces choses dans des lettres qu'il envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, et que du 15e, ainsi que du 15e d'année en année, jusqu'à aujourd'hui. À l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête. Encore une fois, nous servons le Dieu des retournements de situation. Ils devaient en faire des jours de festin et de joie où chacun envoie des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Aujourd'hui encore, ce sont une occasion de réjouissance. On échange des cadeaux, on lit le livre d'Esther dans les synagogues. Chaque fois que le nom de Haman est prononcé, l'assistance siffle ou fait du bruit. Il y avait même à une époque des bruits. Ils avaient des crécelles. Vous savez ce que c'est les crécelles? C'est quelque chose qu'on voit plus tellement à l'époque des smartphones, mais c'était des petits instruments qu'on pouvait faire tourner et qui faisaient un bruit de cliquetis. Et c'était aussi, il y avait des crécelles contre Amman. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est une fête qui n'était pas une fête instituée dans le Lévitique, mais une fête qui est célébrée jusqu'à aujourd'hui pour célébrer Dieu et ça, et la préservation de son peuple. Certains, on en a parlé, disent Noël, c'est pas une fête biblique. L'anniversaire de Dieu, oh là là. Peu importe. Ça, c'était pas une fête biblique. Il y avait d'autres fêtes bibliques que Jésus lui-même a célébrées. La fête de Hanouka, en mémoire de l'huile qui avait duré et qui avait permis, lorsque les Antioche et Épiphane avaient essayé de mettre fin au culte dans le temple de Jérusalem, se faire adorer à sa place, faire adorer un cochon à la place du Dieu vivant. Là aussi, il y avait eu conclusion que il y avait une fête, une nouvelle fête, non biblique, entre guillemets, la fête des Lumières, ou Hanouka, aujourd'hui. Elle était célébrée publiquement place Magenta, il y a quelques semaines, par les autorités de la ville et des députés et des représentants des Juifs de la ville. Jésus a célébré lui-même la fête des Lumières. Et ça, c'est bien de célébrer les fêtes bibliques ou de voir ce qu'elles représentent aujourd'hui. Jésus est notre Pâque. Les chrétiens ne sont plus appelés à célébrer la Pâque juive, mais nous célébrons Jésus, sa résurrection, le jour de Pâques, parce que Jésus est notre Pâque aujourd'hui. C'est Paul qui nous l'annonce. Et donc, ne vous laissez pas embêter par ces gens qui vous disent « Oh là là, Noël, si votre église fête ça !» Il s'agit de savoir qui on fête. On ne fête pas le Père Noël, on ne fête pas l'arbre de Noël. On fête la mémoire de Jésus-Christ, de sa venue sur terre. On sait que ce n'est pas la date exacte, parce que c'était probablement au printemps. Mais chaque fois que vous faites une fête pour célébrer Dieu, moi, je n'aurai aucun problème. Amen. Et verset 23, les Juifs firent une tradition. Encore une fois, les traditions peuvent avoir du bon parce qu'elles nous permettent de nous souvenir de certaines choses, de leur célébration initiale et des consignes de Mardochée. Car Aman, fils de Hammedata l'Agagite, adversaire de tous les Juifs, c'était un Agagite antisémite, avait projeté de faire périr les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, c'était le nom du, la façon dont il tirait au sort, pour les tourmenter et les faire périr. Le pluriel de pour, c'est pas pours, c'est pourim. C'est pour ça que ça nous a donné la fête de Purim. Verset 25, mais lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim d'après le mot pour, ainsi en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre de ce qu'ils en avaient vu et de ce qui leur était arrivé. Les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, ce même mot, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux journées selon le mode prescrit et au temps fixé d'année en année. On garderait le souvenir et la célébration de ces journées de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours de Pourim sont irrévocables chez les Juifs. Leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants. La reine Esther, fils d'Abishaïl, et le juif Mardochée écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre de Pourim. À tous les Juifs des 127 provinces du royaume d'Assyrie, on envoya des lettres, messages de paix et de fidélité. Ces jours de Pourim furent institués à leur date, à l'occasion de leur jeûne et de leur clameur, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient institués pour les Juifs eux-mêmes et pour leur descendance. L'histoire d'Esther institue le rituel de Pourim, c'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. Et c'est ce passage, c'est tout ce livre qui est lu par les Juifs aujourd'hui encore. Verset 1 du chapitre 10, le roi Assuérus frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. Tous les récits de sa puissance et de sa vaillance, ainsi que le détail de l'élévation de Mardoché par le roi, tout cela est écrit au livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses. Car le juif Mardoché était le premier ministre du roi Assuérus, le grand homme des juifs aimé par la multitude de ses frères. Il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de toute sa race. Suite à cet épisode, on voit que le roi est glorifié aussi, sa puissance est affermie. Il a enfin un bon premier ministre, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui le sert. Et Mardoché laisse dans l'histoire le souvenir d'un grand homme qui a protégé son peuple. Ce qui est intéressant, et j'en terminerai avec ça, c'est que si vous vous placez du point de vue des Juifs qui vivaient là, pour eux, peu de choses avaient changé. Ils étaient toujours en exil, loin de leur terre, de la terre de leur peuple. Ils étaient toujours plus ou moins bien traités. À un moment, il y avait l'antisémitisme qui était devenu une menace constante. Qu'est-ce qui avait changé? Le président n'avait pas changé. C'était le même empereur. Qu'est-ce qui avait vraiment changé? Ils avaient changé de premier ministre. Ils étaient passés de Haman à Mardoché. Et de l'insécurité, de la misère, ils n'avaient pas changé d'endroit, pas changé de ville. Ils étaient pratiquement dans les mêmes circonstances. Il n'y avait que quelqu'un qui avait changé. Et c'était celui qui régissait les choses, en quelque sorte. Maintenant, bien souvent, nous nous trouvons dans des situations où nous ne sommes pas heureux. Ah, si seulement je pouvais être au Canada. Si seulement je pouvais être marié. Si seulement je pouvais être célibataire. Si seulement je pouvais avoir des enfants. Si seulement mes enfants pouvaient être partis et grands et que j'ai plus à m'en occuper au jour le jour. Si seulement j'avais la responsabilité de mon groupe de travail. Si seulement j'étais juste un employé, que j'ai pas à me soucier de toute la politique dans l'entreprise. Et on n'arrête pas. On n'arrête pas. Le problème, ce ne sont pas nos circonstances. Le problème, c'est qui nous gère. Et on a vu la très belle illustration, le sens spirituel de cette histoire. Et on a dit que Haman, c'était un type de la vieille nature, une représentation, une illustration de notre vieille nature qui nous entraîne vers le bas. Et on a vu aussi que Mardoché, c'était une représentation du Saint-Esprit qui nous élève vers le haut, qui nous donne la vie. La loi du péché et de la mort, c'est la loi de Haman, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui compte dans nos vies, c'est pas le changement de nos circonstances. Les mêmes circonstances, des circonstances différentes, n'y feront rien. Je me souviens, j'avais une jeune nièce qui se sentait mal dans sa peau, qui ne voulait pas venir au Seigneur parce qu'elle disait « Oui, vous êtes venu au Seigneur, mais avant, vous êtes bien amusé. » Elle avait dans l'esprit que d'abord, elle voulait s'amuser et un jour, peut-être, elle envisagerait de venir à lui. Comme elle n'allait pas bien, elle avait décidé d'aller en France. Elle habitait aux États-Unis, elle voulait voir la France. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je lui disais, tu sais que partout où tu iras, là tu seras. Autrement dit, on peut aller jusqu'au bout du monde, on va se retrouver avec les mêmes problèmes personnels. Si c'est toujours notre vieille nature qui nous régit. La seule chose qui avait changé, c'est que Mardoché avait remplacé Haman. Dans nos vies, Nous sommes appelés à laisser l'Esprit Saint nous diriger. C'est un combat. Galates 5, 17. L'Esprit est en combat avec notre vieille nature. Et peu importe les circonstances, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être riche, vous pouvez être célèbre, ce qui compte, c'est votre relation personnelle avec Dieu. Et Paul nous dit, je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, etc. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est la solution. La solution, ce n'est pas un changement de circonstances. Dieu peut amener des circonstances différentes, il peut nous faire sortir de prison, il peut accéder à nos désirs qui nous inspirent, il peut nous donner des choses qui vont nous bénir. Mais la chose essentielle, la chose que personne ne peut vous retirer, c'est votre propre relation personnelle avec Jésus. Si l'Esprit Saint vous dirige, s'il a remplacé la vieille nature, alors vous allez pouvoir faire la fête. Chaque jour, il y a abondance de joie et de délices à la droite de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment au fond de nos cœurs. Savoir que ce qui compte avant tout, et c'est un peu le message d'Esther, c'est cette relation avec Dieu, c'est qui dirige votre vie. Après, il vous donnera la capacité d'endurer les moments difficiles, de vous contenter du peu que vous aurez au moment donné. Mais encore une fois, c'est pas l'abondance de richesses, de biens matériels. C'est votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce récit de l'histoire historique de Esther et Mardochée, de Xérès Ier, du roi Assuérus, de ce premier ministre antisémite. Seigneur, merci parce que nous savons que ta parole est la vérité. Nous avons des recoupements historiques qui confirment ces récits historiques, Seigneur. Quelle merveilleuse chose, Seigneur, que de dire que nous pouvons compter sur ta parole et ce qu'elle nous apprend, nous pouvons l'utiliser pour diriger notre vie, Seigneur. Nous voulons venir à toi dans l'humilité, recevoir cet Esprit Saint, qu'il soit notre guide, et nous à marcher selon lui, Seigneur, jour après jour. Seigneur, sois béni pour ton désir de nous bénir au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, si seulement nous te faisons confiance et nous laissons ton esprit prendre le contrôle de notre vie. Aide-nous à nous abandonner à toi, Seigneur. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.